Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Peut-être que, remarquez, il y a une très bonne sonorisation, mais vous qui êtes au fond, là-bas, exilé, si vous voulez vous mettre plus près, peut-être, enfin, bon, peut-être que vous êtes timide, simplement, mais... Alors, bonsoir. Avant de commencer notre causerie, je vous signale que les musiques que vous avez entendues pendant que vous entriez dans la salle ont été choisies pour la circonstance, et je vais vous dire ce que c'est, et je vais vous dire le rapport. C'est des musiques qui ont été enregistrées par Maître Jordi Savall, qui est universellement connu pour ses recherches et exécutions de musique du Moyen-Âge, de la Renaissance. Et il se trouve, si vous voulez, moi j'aurais voulu vous passer des musiques dont il a fait un concert tout récemment, mais dont le disque n'est pas encore publié. Et c'était un concert à propos de l'Éloge de la folie, au cours duquel ont été déclamés un certain nombre d'extraits de l'Éloge de la folie d'Érasme, entrecoupés de musique du temps d'Érasme. Alors des musiques très étonnantes, musique européenne, bon, française, allemande, italienne, mais turque, arabe, juive, qui donne l'image de ce qu'était la culture musicale de son temps. Et ne pouvant évidemment pas vous procurer ça, puisque le disque n'est pas encore paru, je me suis rabattu sur un autre du même maître, qui porte un nom étrange, c'est en italien, altre folie, c'est-à-dire les autres folies. Et les folies en question, ce sont des danses traditionnelles qui ont été développées et orchestrées par un grand nombre de musiciens, et celles que vous avez entendues vont, disons, du XVIe au XVIIIe siècle, puisqu'il y a même des pièces de Corelli dans le lot, mais ce sont surtout les pièces pour cordes. Et je pensais que ça, c'est utile de faire des ponts entre, disons, littérature et les autres arts, parce que trop souvent, on est entre philosophes, ou entre écrivains, ou entre musiciens, ou entre plasticiens, et on s'occupe rarement des relations qu'il y a entre eux. Or, il y en a énormément. Bien, j'ai fini sur ce préliminaire. Et je suis ravi de vous annoncer que, au lieu d'un conférencier ce soir, moi-même, vous en avez deux pour le même prix. Le deuxième étant quelqu'un de rare, puisque c'est une des traductrices des adages. Anne-Marie Salvia, qui est à côté de moi et qui a participé à cette affaire un peu...
folle.
Un peu folle. ça pourrait être une bonne introduction. Moi, j'aimerais bien savoir comment les traducteurs ont vu la chose. Parce que moi, je sais comment moi je l'ai vu, évidemment. Mais comment eux l'ont vu, je pense que leur version doit être intéressante.
Oui, un jour, j'ai vu arriver par Internet, donc par ma messagerie, un appel. On cherchait donc des personnes, un minimum compétentes, pour participer à la traduction des adages d'Érasme. Alors j'avoue que j'étais très ignorante à ce moment-là concernant Érasme en général et les adages encore plus. Et donc je me suis dit, de quoi s'agit-il? Mais après tout, j'avoue que c'est une époque où, j'ose le confesser, je m'ennuyais un petit peu. J'avais envie de faire un travail de qualité universitaire et je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis dit, des adages, ça ne doit pas être bien méchant. Et alors, très naïvement, je vais confesser que je croyais que j'aurais affaire à quelques aphorismes simplement à traduire. Il était question d'une centaine donc d'adages à traduire par personne. Je me suis dit, ça va, 100 phrases, c'est... Voilà, donc je confesse que ça a été ma première réaction. Et j'ai présenté ma candidature à Jean-Christophe Saladin, qui l'a accepté sans demander trop de garanties. D'ailleurs, je l'en remercie. Et donc, il nous a expliqué, toujours par Internet, comment nous devions procéder pour trouver les textes dont nous étions chargés, puisque il m'a aussitôt attribué un lot d'adages, donc je ne les avais pas encore vus du tout. À travers Internet, j'ai réussi à trouver les adages correspondants à ma tâche. Et là, avec beaucoup de surprise et un petit peu d'appréhension, j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas d'une centaine de phrases, mais que chaque adage était assorti d'un commentaire. Voilà. Et que j'aurais à faire surtout un travail de traduction de ces commentaires, qui pouvaient être de longueur extrêmement variable, puisque certains commentaires prenaient 5 lignes et pour d'autres, eh bien, il pouvait y avoir 2 pages. Alors je me suis dit, oulalalala, dans quoi me suis-je lancée, dans quelle entreprise me suis-je lancée? J'ai été aussi mise en contact avec une autre personne. Nous étions chargés réciproquement de collaborer, elle de surveiller un peu mon travail et moi de surveiller le sien. Donc je me suis mise assez rapidement à l'ouvrage. J'avoue même que j'ai travaillé sur la plage en Grèce avec ces adages, sans dictionnaire, parce que je n'avais pas transporté le gaffio dans l'île de Samos. Bon. Et pour nous aider, il y avait une traduction anglaise. Mais alors, un de mes gros problèmes, c'est que je ne suis pas du tout angliciste. J'avais le problème de traduire aussi l'anglais, histoire de vérifier que ma traduction n'était pas totalement incorrecte. Voilà. Et j'avoue qu'en cette occasion, j'ai aussi, maintes fois, sollicité les gens de ma famille. Donc, mon fils qui est là en est témoin. Donc, il m'est arrivé de le solliciter sur une histoire de points, parce que dans un des adages, il était dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas plus grand que la surface d'un point. Alors, mon fils me dit, puisqu'il avait fait une terminale S, il me dit non, c'est pas possible, un point n'a pas de surface. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Tu ne peux pas traduire les choses comme ça. Voilà. Alors, pour d'autres questions, il m'est arrivé de solliciter diverses personnes de ma famille. Mais j'avoue que je n'ai rencontré qu'un enthousiasme très modéré de la part des gens de ma famille. Voilà. Donc ça a été une entreprise beaucoup plus importante que celle à laquelle je m'attendais, mais extrêmement passionnante. Parce qu'alors, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de penser à Erasme, qui ne disposait pas, au moment où il travaillait, de tous les outils que moi j'avais sous la main. Bon, par exemple, il me suffisait de googliser tel nom toujours sur Internet. J'ai beaucoup travaillé avec Internet, donc je pense que ce travail n'aurait pas pu être fait il y a un certain nombre d'années dans les conditions où il a été fait s'il n'y avait pas eu Internet, parce que moi j'habite Périgueux, il n'y a pas la bibliothèque nationale à côté, il n'y a pas la bibliothèque de l'école normale supérieure, et sans Internet j'aurais eu beaucoup de mal ou à comprendre certains points ou à installer des notes à des endroits stratégiques. Je pense que ce travail sur une œuvre très ancienne doit beaucoup à Internet.
Oui. Ouais. Ben, j'en profite pour remercier la librairie Mola qui est intervenue dans les adages sans le savoir, mais d'une façon décisive. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça a un sens tout de même assez profond. Je vous explique de quoi il s'agit. Les adages, c'est en fait un empilage de citations d'auteurs de l'Antiquité. Quand je dis un empilage, des adages, il y en a 4151. En fait, il y en a plus parce que certains se dédoublent. Enfin, il y en a près de 4200. Donc, 4200 citations d'auteurs totalement variés de la totalité de l'Antiquité, depuis Homère jusqu'aux Byzantins. Tout le monde y passe. Les historiens, les philosophes, les auteurs de comédies, de tragédies, les poètes, les latins, les grecs, vraiment tout le monde y passe. Et, alors évidemment, les auteurs très connus, moi je ne sais pas, Homère, Platon, Eschyle, Sophocle, c'est facile à trouver. On peut comparer, on trouve aux belles lettres, ça se trouve. Alors, au début, on se disait, bon, ça va, on prend dans nos bibliothèques, finalement, et on va trouver, pour vérifier, pour voir quel texte Erasme utilisait. Et puis, ça s'est compliqué très vite, parce qu'on s'est aperçu qu'il citait des quantités d'auteurs que nous ne connaissions même pas. ou des auteurs dont nous avions entendu parler, mais dont nous n'avions pas les textes, ou dont les textes n'étaient pas édités, et parmi eux, il y en avait un qu'Erasme affectionnait énormément, et qui s'appelle Ozone de Bordeaux. Et que Erasme affectionnait beaucoup, et d'ailleurs on s'est rendu compte que tous les humanistes le tenaient en très haute estime. Et voilà qu'il se met à citer Ozone. Figurez-vous que de Ozone, il n'y a pas d'édition utilisable en France, enfin, quand on a commencé. Alors juste, j'y viens. Quand nous avons commencé, il y a de ça environ 5 ans, il n'y avait pas d'édition d'Ozone complète sur le marché en France. Et même en bibliothèque, c'était extrêmement difficile. Il fallait se référer à des éditions du XVIIIe siècle, voire plus anciennes, dans lesquelles les découpages étaient faits de façon assez alambiquée et on n'arrivait pas à retrouver. Tout simplement, Erasme vous disait « Ozone dit telle chose » et nous, on n'arrivait pas à retrouver où c'était. Alors, quant à trouver ce que ça voulait dire, c'était encore une autre paire de manches. Et voilà-t-il pas que, 6 mois avant la fin de notre aventure, où, alors, évidemment, moi, j'étais maître d'œuvre, donc je commençais à transpirer, parce que rendre un texte un peu érudit quand même, dans lequel on n'arrive pas à rendre raison de toutes les références, ça l'affiche mal. Surtout quand, dans les références, Ozone, c'est quand même un auteur national en France. On ne peut pas dire que c'est un exotique débarqué de l'Inde ou je ne sais où. Et voilà-t-il que quelqu'un me dit, « Mon cher, regarde donc sur le catalogue de Mola, ils viennent de publier un Ozone bilingue complet. » C'était le cas, je me suis précipité dessus, et ça a été la découverte, le don du ciel. Il y avait cette très belle édition, en plus bilingue, édition critique. On a pu retrouver tous nos textes là-dedans, et les référencer, et même comprendre de temps en temps des choses qui franchement étaient obscures, parce que Ozone était un auteur, il faut reconnaître, particulièrement... chez les modernes, moi je dirais, il est quelque part entre Mallarmé, Baudelaire, Prévert et Victor Hugo. Alors quand c'est le côté Victor Hugo, ça passe, imitation de Virgile, bon, les profs de latin s'y retrouvent. Quand c'est du côté de Mallarmé ou de Prévert, je peux vous dire qu'on peut se faire du souci. Donc, Mola a... et Bernard Combeau ont vraiment œuvré pour la République des Lettres, comme on dit, d'une façon beaucoup plus importante qu'ils ne pouvaient même le croire à l'époque. Ils ont peut-être cru qu'ils faisaient juste un livre d'érudition réservé à quelques-uns. En fait, alors je vous recommande vivement la lecture d'Ozone, qui est vraiment un ravissement. En tout cas, moi, je suis devenu un inconditionnel d'Ozone, que je ne connaissais pour ainsi dire pas avant. Bien.
Voilà. Eh bien, je ne manquerai pas d'en faire part à M. Combeau, que je dois voir pour des raisons professionnelles, pas très agréables peut-être, dans 3 jours, puisqu'il exerce la prestigieuse fonction d'inspecteur général de l'éducation nationale.
Voilà. On l'avait invité, donc, mais on n'a pas réussi à le joindre, et donc j'aurais été très heureux
de pouvoir Périgueux dans,
le féliciter.
Dans 2 jours, ben, je ne manquerai pas de lui transmettre. Voilà. Oui, je disais donc ce qui m'avait beaucoup impressionné, effectivement, c'est l'extraordinaire variété des auteurs cités par Ozone. Donc, même en tant que professeur de latin, j'ai découvert qu'il y avait tout un pan de la latinité et de l'hellénisme aussi littéraire qui m'avait échappé jusque-là. Donc, il y a énormément d'auteurs que j'ai découverts. J'ai été impressionnée aussi en pensant donc qu'à l'époque où vivait Erasme, il ne disposait pas des moyens que nous avions maintenant. Cet homme avait une bibliothèque dans la tête, je pense, parce qu'il n'avait pas toujours, je présume, à sa disposition les ouvrages qu'il citait. Du reste, il apparaît que parfois il cite de manière erronée, rarement, mais ça lui arrive quelquefois.
Oui, alors erronée, c'est un problème très intéressant. C'est-à-dire, on s'est rendu compte, tous les traducteurs, donc on était une 60aine dans cette affaire-là, que très souvent, Erasme, c'est-à-dire quand nous, on se mettait à comparer les textes qu'il citait avec les éditions dont on dispose, alors c'était globalement le même texte, mais pas mot à mot, pas lettre par lettre. Ça, disons, ça disait la même chose. Par exemple, il cite énormément Plutarque. Oui. Qui était un raconteur d'histoire incroyable, bon, qui écrivait. Et Erasme vous dit, Plutarque raconte dans tel livre que tel roi grec a dit telle chose dans telle circonstance. Bon, on se réfère au bouquin. Et alors, Erasme le cite en grec, hein, et il le traduit après ça en latin. Alors nous, on va chercher le texte grec, Et on s'aperçoit que c'est, comment dire, c'est ça, mais, si vous voulez, dans une édition moderne, on n'aurait pas le droit de le faire. Parce que c'est pas, on pourrait pas mettre entre guillemets, c'est pas le texte pile de Plutarque. En revanche, ça veut dire très exactement ce que Plutarque a voulu dire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une fois, on se dit, bon, c'est accidentel. Mais quand c'est 8 fois sur 10, on est obligé de se dire, c'est curieux, est-ce qu'il ne cite pas de mémoire ? Et je pense que très souvent, il citait de mémoire. Parce qu'il avait certains textes à sa disposition, à Venise. Bon, il a travaillé chez un... Ils ont construit les adages chez Aldemanus, qui était un imprimeur révolutionnaire, cet homme qui a, pour ainsi dire, il n'a pas strictement été le premier, mais il a finalement été le premier à le faire à l'échelle complète, le premier imprimeur de grec d'Occident, qui se trouvait à Venise et qui était lui-même un très grand érudit helléniste, et qui avait autour de lui toute une bande d'érudits, ils étaient, on se pense, une vingtaine, des gens de très haut niveau, beaucoup étaient grecs eux-mêmes. Beaucoup avaient des manuscrits avec eux qui n'avaient jamais été imprimés, et c'est avec tous ces gens-là qu'Erasme a travaillé. Donc, on s'est dit, parce que ça nous a posé des problèmes incroyables, quand Erasme dit, les adages, on les a faits en 8 mois. Au début, on a dit, bon, il exagère, il l'a fait en 2 ans. Et puis, bon, il dit 8 mois, ça fait bien. On a vérifié. Il a séjourné à Venise de février à octobre. Et là, alors on peut dire, oui, il avait déjà préparé avant. Il avait préparé avant, sauf qu'il voyageait à cheval. Ça m'étonnerait qu'il ait pu transporter beaucoup de bouquins sur lui, quelques-uns, bien sûr, ou piquer dans les bibliothèques de ses amis chez qui il allait en Italie, mais pas d'ordinateur, pas de dictionnaire. Enfin, il y avait des, de toute façon des dictionnaires. Alors, voilà, pas de dictionnaire. Oui, pas de dictionnaire. Parce que lui et la bande d'érudits qui était chez Aldemanus parlaient latin, couramment, mais plus que couramment. Pour eux, c'était une langue, une langue d'expression totale. Et le grec, même chose. Ils avaient une connaissance philologique extrêmement pointue. Par exemple, on s'est rendu compte que, et c'est très intéressant, Erasme, dans les adages, alors, commente donc ces formules que sont les adages. Et nous, moderne, on se dit, ah oui, il va nous sortir que la bonne formule, c'est ça, et que les autres, les variantes, sont moins bien. Bon. Donc, il va nous sortir une espèce de manuel des bonnes formules. Chose curieuse, quand on les regarde l'un après l'autre, on s'aperçoit que c'est absolument pas ça. Il vous dit, il y a telle formule que j'ai trouvée chez X, bon, chez Homère, tel endroit, dans lequel tel personnage dit ça, qui est réutilisé par Platon dans tel dialogue, qui fait dire telle autre chose, qui est réutilisé en changeant un mot, en changeant une lettre, ou dans une variante dialectale par tel poète. Et finalement, il vous balance une collection de variantes dans laquelle aucune n'est considérée comme la meilleure. De temps en temps, il dit « celle-là, elle ne vaut pas un clou ». Mais en général, il s'intéresse finalement plus à la variante qu'à l'original. Ce qui laisse entendre, d'ailleurs il le dit lui-même souvent, que l'intérêt de la formule, c'est qu'elle est vivante. Il ne s'agit pas d'apprendre comme un perroquet et de répéter les bonnes citations des bons auteurs dans un moule. Il s'agit de soi-même les réinterpréter et les faire varier à l'infini suivant les situations et suivant même les variations dialectales. Il sort des mots d'argot, des mots de dialecte, des mots... C'est très étrange, comme à l'image des grands grammairiens de l'Antiquité, parce que Quintilien disait ça aussi, et Cicéron disait ça aussi. La langue, ce qui fait l'intérêt et la beauté d'une langue, c'est qu'elle est en évolution permanente. C'est qu'elle n'est jamais fixe, parce que si elle était fixe, elle serait stérile. Et ça, c'est un enseignement d'Erasme que nous, on a beaucoup de mal à comprendre, parce que malheureusement, enfin, moi, c'est ma sensation en tout cas, disons mon sentiment, dans les lettres françaises, nous sommes beaucoup infectés de ce virus-là, qui consiste à dire aux jeunes, il y a la bonne formule, c'est les classiques. Dès que tu t'écartes de la formule des classiques, c'est pas bon. Et curieusement, alors ça, c'est toi qui saurais dire, dans l'enseignement même du latin et du grec, je crains qu'on ait aussi souvent cette espèce de déformation sur la fixation.
Alors, je dirais qu'en France, nous sommes assez ouverts parce que donc, j'ai eu l'occasion de travailler un certain nombre d'années dans un pays voisin, en Allemagne. Mmh. Et donc, je pensais que nous avions une vision un petit peu étriquée de l'enseignement de la littérature en France. Mais je dois dire, alors, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues allemands, que j'étais très surprise de la conception de l'enseignement du latin en Allemagne. Mes collègues allemands avaient aussi pour contrainte de préparer leurs élèves à un examen, je ne sais pas s'il existe encore, qui avait le terrible nom de Grosses Latinum, et il y avait aussi le Kleines Latinum qu'on pouvait obtenir simplement lorsqu'on avait fait un certain nombre d'années de latin jusqu'au baccalauréat, jusqu'à l'abitur. Mais pour obtenir le Grosses Latinum, il fallait systématiquement se soumettre à une épreuve de traduction de César, essentiellement. Éventuellement, ça pouvait être du Salluste ou du Cicéron. Et je me rappelle l'affolement et la consternation de mes collègues du lycée franco-allemand de Sarrebruck, le jour où, au baccalauréat franco-allemand, la version commune pour les élèves latinistes français et allemands était du Sénèque. Ça a déclenché un véritable scandale. D'accord. Et on a peine à croire cela en France. C'est vrai que pour nous, aucun auteur latin n'est impossible. Mais pour mes collègues allemands, je me rappelle encore la réaction de ce collègue qui disait « Mais Sénèque, mais ça n'est pas possible. Heureusement, j'ai bien préparé mes élèves et ils ont réussi. Mais ça aurait pu être une catastrophe. » On a là la catastrophe.
Le répertoire est encore plus limité
donc
qu'en France.
À cette époque-là, c'était il y a un certain nombre d'années de cela. Et, donc, ils considéraient que nous, les professeurs français de latin étions de grands fantaisistes.
Ah oui.
Et alors, à côté de ça, ils étaient extrêmement impressionnants parce qu'ils parlaient latin. Ils organisaient des repas, des agapés, souvent d'ailleurs avec le curé. Ils s'attablaient pour un symposium. Voilà.
Et ils parlaient latin.
Et donc là, pour nous, c'était très étonnant. Mais alors, à leurs yeux, nous étions des rigolos. Voilà. Donc c'était une toute autre conception, et j'avoue que mes collègues allemands, sans doute, qui étaient d'une autre génération que la mienne, avaient une maîtrise de la langue latine qui était certainement supérieure à la nôtre, mais avec pour contrepartie.
C'est très intéressant de voir ces variantes et ces variations qui sont finalement de traditions culturelles suivant les pays, parce que la question du répertoire, l'ouverture du répertoire. Alors nous, c'est une chose qui nous a beaucoup sidérés, les traducteurs d'Erasme, enfin des adages, quand nous nous sommes rendus compte que Erasme, lui, citait une quantité d'auteurs, mais vraiment un éventail que nous ne... Pour vous dire, il cite environ 1500 ouvrages de l'Antiquité. Là-dessus, moi je vais vous dire, alors toi tu dois connaître plus, mais moi qui suis un amateur... Je vais dire que j'en connaissais, mettons, 300 ou 400. Les autres, alors je ne dis pas que, disons, la moitié des autres, j'en avais entendu parler, mais je ne les avais jamais lus. Et la dernière frange, j'en avais même pas entendu parler.
Mais c'est pareil pour moi. Hein. C'est pour ça que je dis merci Internet. Hein, parce que,
donc, il y a vraiment, un problème culturel. Les humanistes pratiquaient des auteurs dont nous, avons vaguement conscience de l'existence. Alors, on a découvert avec ça une autre chose qui, moi, m'a absolument fasciné. Parce que ces femmes, quand je dis, ils citent des auteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, citer un auteur? Il y a des cas où on cite un auteur parce qu'on a lu le bouquin et on dit, dans tel passage, il y a telle formule qui est géniale. Et la voici. Mais, comme vous le savez, je suppose... 90% de la littérature de l'Antiquité païenne, gréco-latine, a disparu. Nous ne l'avons plus. Or, dans les 1200, 1500 ouvrages qu'Erasme cite, il y en a une bonne moitié qui sont dans les 90% disparus. D'où est-ce qu'il les connaissait? Qu'est-ce qu'il connaissait de ces gens-là? Alors, voilà. Il dit, tel auteur... dont nous avons les textes, mettons Olugel, mettons Athénée, mettons Macrobe, mettons Plutarque. Dans tel banquet, fais dire à tel personnage, chers amis, j'ai lu chez tel auteur que tel poète a dit ça. Et ce vers est absolument magnifique, c'est un vers qui vient d'une tragédie perdue de X. Erasme vous dit, X, telle tragédie, tel vers. Nous, on ne connaissait ni l'auteur, ni le nom de la tragédie. Et si on remonte tout le fil, le personnage du banquet d'Olugel, des Nuits Attiques par exemple, dit qu'il a lu dans un livre, qu'il avait sans doute dans sa bibliothèque, que tel auteur citait tel poète. Erasme a lu Olugel, nous, nous lisons Erasme. Et alors, une fois, deux fois, trois fois, on se dit, bon, c'est cette fameuse histoire des fragments. Vous savez, parmi vous, je ne sais pas les connaissances que vous avez, la familiarité que vous avez avec la littérature de l'Antiquité, mais dans la littérature de l'Antiquité, ce qu'il en reste de nos jours, il y a deux parties, enfin trois parties. Il y a les auteurs, les textes que nous possédons, en plus ou moins bon état, mais enfin disons qu'on va dire l'Iliade et l'Odyssée, voilà. On a des textes qui sont l'Iliade et l'Odyssée. Il y a les textes que l'on connaît parce qu'ils ont été cités par d'autres. Platon dit que Empédocle a dit ça. Bon, alors on l'a par Platon, mais le texte entier d'Empédocle, on l'a perdu. Alors on dit, on a des fragments d'Empédocle, on essaye de prendre tout ce qui a été dit, tout ce qui a été cité d'Empédocle par, je ne sais pas combien, 50 auteurs, et puis voilà les fragments qui nous restent. Ça, c'est le deuxième bout. Le troisième bout, ben, c'est ceux qui ont disparu tout court, et dont on n'a rien, dont on a quelquefois les noms, ou le titre de la pièce, le titre de l'ouvrage, mais pas une ligne, rien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a perdu 90%, parce que si on les met à la queue leu-leu, en tout cas de ceux qui ont été cités un jour, parce que je ne parle pas de ceux qui n'ont jamais été cités dans ce qu'on a, parce qu'il y a évidemment des auteurs perdus qui ont cité eux-mêmes des auteurs perdus aussi. Donc ceux-là, jamais on les connaîtra. Bon. Et c'est sans doute eux les plus nombreux. Bon. Bref, d'où est-ce que Erasme les connaissait? Alors voilà. Et il les cite très souvent. Olugel, Macrobe, Plutarque, Athénée. Alors, je me tourne de nouveau devant ma traductrice préférée, en lui disant, est-ce que... Alors, moi, je n'avais jamais lu. Parce que moi, j'avais lu... quand ça m'est arrivé de lire des choses sur la littérature grecque ou latine, bien sûr, je sais que Athénée, Olugel, Macrobe, c'est des auteurs importants. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je ne sais pas, parce que toujours dans les bouquins, on disait, ah ouais, c'est des auteurs... Vous savez, c'est des auteurs, on appelait ça de seconde main. Des gens qui citent les autres. Or, chez nous, il y a l'auteur de première main, celui qui signe son texte. Ça, c'est un vrai, c'est un bon, influence allemande, hors texte. Le vrai auteur, c'est celui qui a écrit son texte. Celui qui commente ou qui reproduit le texte d'un autre, bon, on l'aime bien parce qu'il a fait son boulot, mais quand même, ça ne tient pas la route. C'est pas un auteur sérieux. Et ces fameux auteurs de banquet, alors je dis de banquet parce qu'en fait, en tout cas ces quatre-là, d'ailleurs c'est eux les quatre principaux qu'on a récupérés de l'Antiquité, chez les Grecs Plutarque et Athénée, et chez les Latins Olugel et Macrobe. Ce sont des gens qui ont, ils ont écrit des choses de même style, des banquets, ça s'appelle des banquets. Vous savez, c'est ces textes dans lesquels l'auteur vous dit « Ah, figurez-vous, la semaine dernière, j'ai réuni chez moi une bande d'amis. Il y avait qui ?» Alors, mettons à la sauce moderne. « Ah, eh bien, il y avait Daniel Salnave. » Elle va venir ici bientôt. « Il y avait Daniel Salnave. Il y avait Claude Lévi-Strauss. Il y avait Anne-Marie Salvia. Et il y avait...
Christophe Ruffin.
Non, quelqu'un qui est mort il y a 100 ans. Il y avait, je ne sais pas, on va dire... Bon, il y avait Jacques Prévert qui était là. Et on a discuté de quoi? De littérature. Et chacun, on s'est échangé les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ces gens-là ne se sont pas trouvés ensemble autour d'une table. C'est pas vrai. Alors, dans certains cas, si. Effectivement, c'était un vrai banquet. Mais la plupart du temps, non. Exactement, le modèle, c'est le banquet de Platon, hein, qui met ensemble des gens qui n'ont pas pu se connaître. Mais, évidemment, littérairement, ça permet des jeux invraisemblables. Parce que chacun sait ce que l'autre a écrit, donc on fait des allusions, des sous-entendus, et on s'amuse. Et on traite de tous les sujets qu'on veut. C'est une richesse folle. Plus tard, quand on a écrit des volumes comme ça. Olugel aussi, Macrobe, Athénée aussi. Notamment, Macrobe a écrit une chose absolument inimaginable, qui devrait, à mon avis, être étudiée dans les écoles obligatoirement. C'est dans les Saturnales, le cinquième livre, dont le sujet est comparaison entre Virgile et Homère. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom du comparaison entre Virgile et Homère? Tout ça, c'est de vieille lune, c'est la poésie d'époque. Mais comparaison entre Virgile et Homère, ça veut dire quoi? Pour des gens de l'Antiquité, Homère, c'est le point de départ, l'origine de toute poésie, disait-il. Virgile, c'est l'arrivée. Entre les deux, il y a, on ne sait pas très bien, quelque chose comme peut-être 1000 ans, peut-être 700, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour eux, dans l'Antiquité, c'était vraiment les deux extrêmes de la culture. Et la comparaison, elle est inimaginable. Il compare les thèmes, il compare la métrique, il compare les personnages, il compare les situations, il compare... C'est une discussion stylistique d'une précision inimaginable et dans laquelle on se rend compte que tous ces gens, accessoirement, connaissent par cœur l'Iliade et l'Odyssée et l'Énéide, ils vous les citent comme ça. Pour eux, c'est une pratique quotidienne et il y a une étude stylistique, psychologique, philologique, qui est d'une finesse absolument inimaginable. Et je pense que les critiques modernes auraient bien souvent intérêt à lire ça. Tout ça pour dire, il y a tout un corpus de littérature qui est donc, on va dire, de statut intermédiaire, cette littérature de banquet, de laquelle sont extraits toutes ces fameuses citations d'auteurs qu'on a perdues. Sans parler d'un troisième bloc, alors que nous, alors, Olugel, Macrobe...
Alors, je dirais qu'Olugel a pris du galon.
Mais c'est récent.
Alors, il était au concours de Normale Sup il y a 3 semaines.
Il est réhabilité. Donc, mais il en avait disparu depuis combien de siècles?
Olugel est en phase de réhabilitation, mais alors je crois pour des raisons, qui tiennent peut-être...
commercial?
Non, pas du tout. Au fait que c'est un auteur réputé relativement facile.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, c'est peut-être pas pour de bonnes raisons, mais... Voilà. Bon. En tout cas...
Macrobe?
Alors, Macrobe, pas du tout.
Or, Macrobe, je tape sur la table, Macrobe a une importance historique. Alors, moi, je vous ai dit, c'est génial, vous me croyez sur parole ou pas, évidemment. J'espère que vous irez voir. Vous aurez du mal, parce que le bouquin, on le trouve pas. Il a une importance historique, parce que... Alors là, je vous raconte l'histoire. Elle vaut son pesant de littérature. L'humanisme, comme chacun sait, est un mouvement qui a démarré vers le XIVe siècle, lancé par quelques poètes italiens, en particulier Pétrarque, qui ont réclamé à corps et à cri le retour des lettres antiques, notamment du grec. Bon, ça, tout le monde le sait. Or, Pétrarque, qui connaissait le latin parfaitement, ne connaissait pas un mot de grec. Et il a dit à qui voulait l'entendre, à force de lire, vous savez, il lisait Cicéron, il lisait... Et les auteurs latins classiques passaient leur temps à dire la vraie source de la poésie, c'est Homère, c'est Platon, il faut lire les Sophocles, il faut lire Euripide, il faut lire Aristophane. Et Pétrarque disait, mais alors, comment je fais, moi? On n'a même pas les textes. Et Homère, dont on dit que c'est la source de toute poésie, comment je fais pour lire Homère? Il n'y a même pas un manuscrit d'Homère en Italie. Et Pétrarque raconte qu'un jour, quand il était devenu riche, enfin célèbre et riche, il rencontre un ambassadeur de Constantinople qui se trouvait de passage à Rome. Un grand érudit qui parlait latin couramment. Ils discutent une après-midi. De quoi est-ce qu'ils discutent, ces deux hommes? De Macrobe. Et de quoi chez Macrobe? Du livre 5 de Macrobe, de cette fameuse comparaison entre Homère et Virgile. À la fin de la discussion, donc les deux connaissaient Macrobe. À la fin de la discussion, Pétrarque dit à l'autre, « Cher ami, tu retournes à Constantinople. La seule chose que tu peux faire pour l'humanité, c'est-à-dire pour moi, c'est de m'envoyer un manuscrit d'Homère. Que enfin je puisse voir ça. L'autre repart. Fais copier le manuscrit, ça prend du temps. On ne sait pas, quelques années plus tard, le manuscrit arrive chez Pétrarque. Et Pétrarque envoie une lettre à son bienfaiteur, je résume en disant « Cher ami, c'est le plus beau jour de ma vie, puisque enfin, devant moi, etc. » Et puis il ajoute « C'est le pire jour de ma vie, parce que je ne peux pas en lire une ligne, c'est en grec. Il n'y a personne ici qui peut, à Florence, qui peut me traduire ce texte grec en latin. » Macrobe, c'est le livre 5 de Macrobe qui a été la cheville qui a fait entrer le grec en Europe à la Renaissance. Puisque vous remontez le fil, hein, Macrobe, Pétrarque, Homère, et puis le reste. L'histoire est jolie, et ça on a le texte. Donc, nous nous trouvons devant cette masse d'auteurs. Ah oui, donc, dernier groupe, il faut le citer, là aussi qu'on n'étudie plus, évidemment, parce que alors là c'est même plus la seconde main, c'est la troisième main. Ce sont ces auteurs que l'on qualifie d'un nom barbare. Moi, j'ai lu ça quand j'étais jeune. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, je le lisais. Qu'on appelle les parémiographes. Alors, si on vous demandait à quelqu'un de sensé dans la rue qu'est-ce que c'est un parémiographe, il va rigoler. Il ne saura pas ce que c'est. Pour trouver quelqu'un qui sait ce que c'est, il faut déjà être agrégé de latin ou de grec. Et un parémiographe, c'est...
Je ne sais pas.
Comment tu ne sais pas? Tu n'as pas honte? Tu en as traduit une centaine. Un parémiographe, en bon français, c'est un collectionneur de proverbes. Or, depuis l'Antiquité, il y avait des intellectuels qui adoraient faire des collections de proverbes, de formules, de bons mots, de répliques de théâtre. Vous savez, nous, on le fait aussi. Dans tous les pays, on aime bien ça. Soit c'est pour les apprendre aux gosses à l'école, soit c'est parce qu'on aime bien les lire. Vous savez, les bons mots, ben, les perles du bac, des trucs comme ça. On aime bien ça, on a toujours aimé ça. Or, chez les Grecs, à Byzance, il y avait des gens qui adoraient faire ça. Et qui faisaient des empilages de citations, et ils vous disaient qui était l'auteur. Ils vous disaient ça, alors voilà, ça c'est de Euripide dans les Bacchantes. Ça c'est de Sophocle dans Antigone. Ça c'est d'Homère dans tel truc. Bon. Et puis ça c'est de Platon le Comique. Alors nous, Platon le Comique, qu'est-ce que c'est ça? Moi c'est un de ceux que j'ai préféré. Alors une fois, on se dit, bon, il y avait mal dormi cette nuit-là, bon. Et puis Platon, il n'a jamais écrit de comédie. Bon. Et puis deux fois, trois fois, quatre fois. À la 40e fois, on dit, mais qu'est-ce que c'est ce Platon le Comique? Mais figurez-vous qu'il y avait, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, un auteur de comédie très célèbre qui s'appelait Platon, qui n'était pas l'autre, pas le philosophe. De toute façon, c'était un peu plus tard, c'était au 4e. Mais il y avait un Platon. Alors, le comique, ça veut dire l'auteur de comédie. Il y avait un auteur qui était sans doute aussi célèbre que chez nous, Labiche ou quelqu'un comme ça, ou Courteline. Et qui a laissé, dont les contemporains et les successeurs ont recueilli des quantités de vers, très drôles d'ailleurs, et des collections de titres de comédie qui ont atterri chez les humanistes. Donc, tout ça pour dire, nous nous sommes retrouvés face à cette énormité de corpus de, finalement, la totalité de la littérature de l'Antiquité païenne. Que Erasme et ses camarades de Venise, érudits autant que lui, ont passé au tamis pour en sortir les adages. Donc, les adages, c'est la voie royale d'accès à la totalité de la littérature de l'Antiquité païenne. Ce n'est pas un traité d'histoire de la littérature, c'est la voie d'accès. Il vous dit, tel auteur est intéressant, enfin, même pas, il vous dit, telle formule est intéressante, et elle vient de chez tel auteur, et on peut l'utiliser dans telle circonstance. Avec ça, rouler.
Voilà. Et puis, il n'y a pas de hiérarchisation. Alors, voilà. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de chronologie, c'est-à-dire que structurellement, chaque adage peut être aussi conçu comme un petit banquet, comme une petite conversation entre esprits de diverses périodes ne parlant pas forcément la même langue, puisqu'il peut aussi bien se référer à Cicéron qu'à Platon le comique, effectivement, oui. dans un même adage. Donc c'est une petite conversation à travers oui. le temps, à travers les langues. Et il n'y a pas de hiérarchisation, oui. c'est-à-dire qu'il est capable de mettre un auteur réputé majeur, enfin oui. je dis réputé majeur, à côté d'un auteur mineur, enfin ou de facto mineur pour nous, parce que oui. inconnu au bataillon.
Et là, tu mets le doigt sur un autre aspect qui est absolument essentiel des adages, c'est la variété. La variété qu'on pourrait prendre en mauvaise part, le désordre, parce que les adages se suivent dans un désordre total. Alors, quelquefois, ça s'enchaîne. Il y en a deux ou trois qui parlent du même sujet, ou bien qui proviennent du même auteur. Et puis, on passe à tout à fait autre chose qui n'a absolument aucun rapport. Chose curieuse, dès l'époque, et Erasme le raconte, c'est très amusant, le livre a eu un succès phénoménal, tout de suite. Et il raconte que les imprimeurs lui ont dit « Ah, mon cher, les adages, c'est très bien, les gens sont très contents, mais tu sais, il y aurait quelque chose à arranger. » « Ah bon, quoi ?» Vous savez, toujours l'auteur, son éditeur lui dit toujours « Ton manuscrit, il est très bien, mais il faudrait changer quelque chose. » Bon, quelquefois, faut tout refaire. Bon, non, là, ce n'était pas ça. Et ils nous disent ce que les imprimeurs ont dit. C'est très drôle parce que, aux belles lettres, moi, quand j'ai amené le projet, on m'a dit la même chose. Les imprimeurs lui ont dit « Ah oui, des adages, c'est très bien, c'est très sympathique, mais tu comprends, mettre tout en désordre, les gens se perdent. Tu pourrais pas nous le faire par thème. Alors on ferait les adages sur l'histoire, sur la cuisine, sur les animaux, sur le droit, sur la religion, sur je sais pas quoi, enfin bref, par sujet. Et comme ça, les gens, ils s'y retrouveraient. » Erasme a répondu « Pas question, je refuse. » « Ah bon, mais pourtant... » Et il a donné la raison pour laquelle il refusait. Alors cette raison, je l'adore. Il l'a écrite noir sur blanc. Il dit, si on le fait par thème, par chapitre, les gens, le lecteur, il va commencer à lire le chapitre qui l'intéresse. Hein, celui qui est avocat, il va prendre sur le droit. Alors il va lire les 4 premières pages. Puis après ça, il va se raser, il va laisser tomber, il n'ouvrira plus le bouquin. Tandis que si ça s'enchaîne dans le désordre, il va découvrir des choses inattendues. Ça va l'intéresser. Il va dire « Ah bon, tiens, il y a aussi ça. » Et puis « Ah, là, il y a un qui me concerne, un qui ne me concerne pas. » Et il va s'amuser au jeu permanent. Cela dit, Erasme avait parfaitement conscience du problème parce que le désordre, le seul désordre, ça a l'avantage évidemment de la variété et d'être intéressant. Mais l'inconvénient, c'est qu'on se perd réellement. Et on peut aussi refermer le bouquin parce qu'on ne s'y retrouve pas. Alors, il l'a dit, et dès la première édition, il l'a fait, il s'est fendu d'une table par thème, qu'il appelle les lieux, les loci, qui sont, alors on va dire, les sujets. C'est une notion assez floue, très curieuse d'ailleurs. Il y en a pas loin de 300. Alors, vous savez, ça commence par la richesse, tous ceux qui traitent de la richesse, puis la pauvreté, puis la corruption. Alors évidemment, on voit le rapport. Richesse-pauvreté, c'est un rapport d'opposition. Corruption, c'est association. Parce qu'évidemment, qui dit richesse, enfin, qui dit corruption, dit il y a des circulations d'argent. Puis après ça, on passe à autre chose. La jeunesse, les vieux qui épousent des jeunes. Et puis, on marche par association, tantôt par contiguïté de sens. C'est le même sujet, mais avec d'autres mots. Tantôt, c'est l'inverse. Tantôt, c'est on a le même mot, mais ça veut dire autre chose. Ou bien on parle du même animal. Mais pour signifier tout à fait autre chose. Et donc, il y a ce jeu assez subtil d'association. Alors, évidemment, ça fait la joie des psychanalystes, ça. Qui fait qu'on se promène partout. On peut ouvrir le livre n'importe où et le refermer n'importe où. On a toujours eu l'essentiel. Ça m'amène à vous situer la machine. Si vous voulez, on arrive à la question à quoi ça sert tout ça. Alors moi je vous ai dit, c'est la voie royale d'accès à la littérature antique païenne. Il y a des gens qui vont me dire, ouais mais la littérature antique païenne, on s'en fiche. Tout ça c'est des vieilles lunes. En fait, à quoi ça sert? Et là, quand même, il y a une question de fond. Vous savez, moi en tout cas, je me souviens très bien, quand j'étais gosse, milieu traditionnel, plutôt cultivé, donc c'était bien de faire du latin et du grec. Quand je demandais à mon père pourquoi c'est bien, il me faisait des réponses qui ne me plaisaient pas. Il me disait parce que les profs disent que c'est bien, et puis parce que dans les livres on dit que c'est bien. En gros c'est ça, dans le dictionnaire on vous dit que c'est bien, que les auteurs grecs et latins c'est bien. Les profs, vous savez, c'est bien de faire du latin comme c'est bien de faire de l'allemand. Alors pourquoi ? Ah oui, si, c'est bien parce que c'est utile pour apprendre la grammaire. Moi, je lui disais, ouais, mais si on fait du chinois, il faut aussi apprendre de la grammaire ou de l'arabe. Ah ouais, mais... non, ça permet d'apprendre les racines, parce que c'est notre langue, c'est la racine du français. Alors, bon, même jeune, j'ai quand même vu assez vite que c'est vrai en partie, mais seulement en partie. C'est vrai que pour comprendre les termes scientifiques, si on... tous sont du grec, notamment en médecine, physiologie et tout ça. Donc, c'est des mots grecs, mais on les utilise parce qu'ils étaient utilisés déjà comme ça par les Grecs. Bon. Donc, effectivement, là, on comprend mieux le sens. Si on sait que chirurgie, que chir, c'est la main, et urgie, c'est le...
C'est quoi ? C'est le travail,
enfin, la manipulation. La main, bon, voilà. Donc, chirurgie, et que chiromancie, d'accord, chir, c'est toujours la main, mais mancie, c'est vous dire l'avenir, pour le même prix. Bon, c'est vrai que c'est pas mal. Bon. Mais si c'est ça le seul intérêt d'Homère et de Platon, franchement, moi, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'embêter les gosses avec ça. Parce que ce serait peut-être plus utile de leur faire faire, encore une fois, du russe, du chinois, des langues modernes qui leur serviront dans la vie professionnelle et qui sont tout aussi riches, qui ont aussi des poètes, des philosophes et tout ce qu'on veut. Enfin, c'est mon point de vue. Alors, Erasme, lui, il avait très bien vu cette question-là. Et alors, lui, il dit à quoi ça sert. Alors, j'avoue que, alors, je ne sais pas, chez les adagiomanes, puisque c'était le nom familier que nous nous donnions entre nous, si tous l'ont vu comme ça, mais Erasme, il dit... Tout ça, pourquoi ? Et alors, la réponse, moi, je l'ai adorée, parce que je la soupçonnais un petit peu, mais il le dit. Pourquoi toutes ces formules ? Pourquoi tous ces poètes ? Parce que ils nous donnent la clé d'une langue élégante et poétique. Si on veut s'exprimer dans la société... Alors, lui, évidemment, voyait ça en latin, parce qu'à l'époque, il pensait, et tout le monde pensait d'ailleurs, que on ne pouvait s'exprimer de façon élégante et exacte qu'en latin. Que les langues vernaculaires, le français, l'espagnol, l'italien, tout ça, elles étaient trop mouvantes, trop vulgaires, et que si on voulait vraiment une belle expression, il fallait du latin ou du grec. Bien. Alors, il dit, voilà, moi je vous fais les adages. Pourquoi ? Je te fournis, lecteur, ce trésor qui contient ces 4000, mais il dit, vous pouvez en rajouter vous-même, des milliers encore, qui contient ces formules, parce que ces formules... elles doivent avoir 5 caractères. C'est quoi ? 1. Il faut être court. L'adage, c'est toujours court. Quelquefois un mot, quelquefois un mot, un adjectif, juste un petit bout de formule, quelquefois une phrase complète. C'est très variable. Hein. Ce n'est pas toujours l'adage au sens où nous, on le prend. Ce n'est pas que qui veut voyager loin ménage sa monture. Quelquefois, c'est juste un mot. Mais c'est un mot qui a un sens un peu métaphorique. Donc, il faut faire court. Il faut faire élégant, toujours que la formule ait une astuce grammaticale ou d'expression ou d'allusion qui la rende judicieuse dans son utilisation stylistique. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quelquefois on peut avoir une métaphore qui est complètement plate. Dire à une fille « t'es belle comme un camion », bon, c'est rigolo. On a compris que c'est par opposition et tout. Certains vont dire, oui, c'est une allusion à la réforme, à l'industrialisation, ça vient des soviétiques et tout. Bon, mais ça reste un peu pauvre. Bon. Tandis que dire du grec sans accent, c'est comme un cœur de jeune fille sans cheveux, c'est déjà beaucoup plus malarméen. Mais ça, Erasme ne le disait pas, non, je blague. Bon, il faut faire court, il faut faire élégant, il faut utiliser de préférence des formes qui ont été attestées chez des auteurs qui ont fait leurs preuves. Et il faut faire métaphorique. Métaphorique au sens d'origine, finalement. Qu'est-ce que c'est la métaphore ? C'est dire une chose pour en désigner une autre. Et en général, alors ça, je ne sais pas chez toi, mais moi j'ai eu la sensation très nette que lui, il privilégie nettement la métaphore du concret vers l'abstrait. Il adore... que le terme utilisé soit un terme très concret. Des termes de cuisine, des termes, les plantes, les animaux, les objets, il est question des outils. Et on en tire un sens abstrait, un sens moral, un sens poétique. Plus que l'inverse. Le déplacement entre sens abstrait, il n'aime pas trop. Lui, visiblement, Et d'ailleurs, c'est d'une astuce rhétorique. Parce qu'après ça, on monte, il s'en sert énormément pour faire un discours ou pour écrire un texte. C'est vrai qu'on frappe beaucoup plus l'imagination de l'auditeur en parlant en faisant des métaphores dont le point de départ est concret. Parce que c'est facile à retenir. Bien. Donc, il propose le trésor de la langue nouvelle, qui sera d'ailleurs la langue humaniste, finalement, et que eux, à l'époque, appelaient la langue poétique. Et, alors, j'y rajoute un petit mot, parce que pour nous, on a du mal à comprendre ça. À l'époque, alors je vous ai dit Pétrarque, hein, cette revendication du retour de la littérature de l'Antiquité païenne. Mais il y avait une chose derrière ça, c'est que les humanistes, en fait, partaient en guerre contre quelque chose. Et ce quelque chose, nous, on ne sait plus très bien, on l'a perdu, on a rarement conscience de ce que c'est. Et ce quelque chose, c'était la scolastique. Il faut se remettre dans l'époque, tout le Moyen-Âge, depuis en tout cas le XIIe-XIIIe siècle, jusqu'au XVIe compris, a été dominé dans les universités et dans les institutions d'enseignement par ce qu'on a appelé la scolastique. Qu'est-ce que c'était la scolastique? On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour comprendre le problème qui est derrière ça, c'était donc des systèmes philosophiques, bien sûr, les grands scolastiques, Thomas d'Aquin, Duns Scot, Guillaume d'Ockham, etc. C'était principalement des philosophes, plutôt des théologiens d'ailleurs, qui, toute école réunie, parce qu'ils se battaient entre eux comme des lions, mais ils avaient tous la même préoccupation. Leur préoccupation, c'était, comme chacun sait, de concilier la religion et la philosophie. Mais pour ça, il fallait arriver à éliminer le faux du discours. Il fallait donc élaborer une langue de laquelle la fausseté puisse être exclue. Si on veut éliminer le faux du discours, il faut éliminer tout ce qui est allusion, tout ce qui est double sens, tout ce qui est finalement poétique et équivoque. Or, ça, c'est le contraire de la littérature et de la poésie. Et les scolastiques avaient très bien compris ça, à tel point qu'ils ont fait interdire l'enseignement de la littérature dans les universités pendant le Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle. Et les humanistes se sont trouvés, ça a été ceux qui ont levé le drapeau de la révolte contre ça, en disant, au contraire, il faut réintroduire la poésie avec tout ce qu'elle entraîne, la métaphore, le double sens. Et alors, le latin et le grec, évidemment, alors, le latin, c'est hallucinant. C'est-à-dire, le latin est une langue qui, constitutivement, est une langue de double et de triple sens et d'allusion. Un mot veut toujours dire deux choses, trois choses. D'ailleurs, Erasme, même dans les autres textes, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai commencé à me frotter à l'éloge de la folie. C'est horripilant. À chaque fois qu'il vous dit une chose, il veut dire ça, bien sûr, mais on voit très bien qu'il veut dire aussi autre chose, et souvent encore une troisième chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait, le traducteur? On choisit, on dit, on va prendre plutôt celle-là, ou alors, on est très embêté. Et le latin est une langue qui permet la poésie d'une façon extrême. Si vous voulez, les humanistes entraient en guerre contre ce fantasme de la langue univoque. Vous savez, une langue univoque. Et ça, chez les modernes, on connaît la même tentation. C'est une langue dans laquelle on a une équivalence stricte entre un concept, un mot, une chose. Vous savez, c'est la langue des modes d'emploi des appareils électroménagers traduits du japonais par ordinateur. Et quand je dis les appareils électroménagers, c'est pour ne pas être méchant. Parce qu'il y a des philosophes qui vivent dans ce fantasme d'une langue univoque. Alors, c'est vieux comme le monde, d'ailleurs, cette histoire-là. Mais ça existe encore. Et ça donne une langue, à supposer que ce soit imaginable, effectivement exacte, de laquelle le négatif soit exclu. Mais c'est une langue d'une pauvreté absolue. C'est-à-dire, on peut, vous savez, on restait dans le système insignifiant-insignifié, et je te les enchaîne, je mets les copules, et roule. Moi, je veux bien, mais on ne va pas très loin avec ça. Même pour acheter le pain chez la boulangère, on entend souvent chez la boulangère des choses extrêmement belles, mais qui sont des métaphores. Bien, Donc, les adages, c'est le mode d'emploi et le trésor lui-même de la langue poétique nouvelle. Erasme le faisait en latin. On peut faire la même chose dans n'importe quelle langue. Si on a les mêmes exigences. Court, élégant, métaphorique. Attesté par les grands auteurs, on peut être un grand auteur soi-même et en inventer des nouveaux. Bon. Court. Court, je rajoute un mot, parce que c'est... On oublie ça aussi, et ça aussi, il y a un mal moderne qui tourne autour de ça. Nous, ça nous a beaucoup surpris, hein, cette histoire que... Sur les 4151, il y en a 4000 qui font entre deux lignes et une page. Deux pages. C'est vraiment de la forme courte. La plupart, c'est 3-4 lignes, un paragraphe, une demi-page. Vraiment la plupart. Pourquoi court ? Alors, il le dit, Erasme. Alors, j'avoue que quand on l'a lu, moi, j'étais quand même assez surpris. Il dit, mais écoutez, si vous faites long, comment voulez-vous intéresser les gosses ? Il faut faire court et varié, parce qu'un lecteur normal ne peut pas suivre. Et ça me fait... Je vais vous raconter une anecdote, parce que ça, c'est du moderne. Je l'ai entendu il y a un mois ou deux, à la radio. Je roulais en voiture, vous savez, on met la radio et on écoute des bribes d'émissions. Ce jour-là, c'était une grande station, je ne sais pas, France Culture, une chose comme ça. Et une femme parlait, très pontifiante, qui devait être, je ne sais pas, une psychologue, quelque chose comme ça. Et le sujet, j'ai compris assez vite, c'était sur, vous savez, cette éternelle affaire, pourquoi les élèves sont si nuls. Ils ne savent pas le français, ils ne savent pas l'orthographe, hein, ils ne lisent pas. Bon, vieux saucisson. Et alors ça m'intéressait, qu'est-ce qu'elle allait dire cette femme ? Et j'entends cette femme qui dit... d'un ton très péremptoire. Mais vous savez, un enfant qui ne peut pas lire plus de 20 minutes le même livre, il faut l'envoyer chez le psy. Et moi, j'ai rajouté, il faut lui donner de la rétaline. Bon. Erasme dit, un enfant qui lit plus de 20 minutes le même livre, c'est suspect. C'est peut-être celui-là qu'il faut envoyer chez le psychologue. Bon. Un prof qui fait plus de 20 minutes le même sujet... Bon, je ne veux pas rentrer dans des histoires corporatives, mais je pense que ce n'est pas un bon prof. La preuve, les élèves bavardent, où ils font des petits papiers, ils font des cocottes en papier. De notre temps, on faisait les cocottes en papier, maintenant, vous savez ce qu'ils font. Ils pianotent sur leur iPhone. Moi, je pense qu'ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'ils s'ennuient. Un prof qu'on ennuie, ça veut dire qu'il a un mauvais pédagogue. En tout cas, c'est ce qu'Erasme dit. Hein. Alors là, il le dit, il a écrit des tas de traités sur la pédagogie. Il le dit texto. Il dit, il faut intéresser son public, il faut amuser les gosses. Et il faut leur rendre, il faut que le travail devienne un jeu. Il le dit, il l'a écrit texto. Hein. Loup douce, jeu. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais ça, c'est l'école Freinet, mais on ne peut pas le faire. Tout. Ben, tu parles, bien sûr qu'on peut le faire. Bon, c'est un autre sujet, mais la légèreté, c'est-à-dire, il faut conjuguer légèreté et élégance. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de la démagogie et de dire « on va faire du court, du facile et du bébête ». Il faut faire du court, du varié et de l'élégant. Et dès qu'un enfant a accès à l'élégance, à mon avis, il est sauvé. En fin de compte, on peut le sauver.
Oui. Tu parlais aussi tout à l'heure de la, comment dire, de la plurivocité. Donc je crois que ça aussi, ça peut intéresser. Enfin, l'idée que... un énoncé donc n'a pas un sens et un seul. Alors chez Erasme, les adages sont le plus souvent assez courts, effectivement, mais quelquefois ils sont un petit peu plus longs parce que Erasme a à cœur d'émettre plusieurs hypothèses quant au sens de l'expression qu'il présente. Donc il dit ça peut vouloir dire ça, mais dans d'autres contextes ça peut vouloir dire autre chose, et même quelquefois tout à fait le contraire. Oui. Alors ce qui pour le traducteur est déconcertant parce qu'on se demande si on a bien compris ou si on n'a pas lâché quelque chose en route. Mais c'est extrêmement fréquent qu'il propose plusieurs interprétations et quelquefois aussi des interprétations dans divers domaines. Voilà, appliquer à tel domaine, ça pourra signifier cela, appliquer à tel autre domaine, telle autre chose. Et c'est vrai que...
Et ça se ramène à cette fascination pour l'ambiguïté. Mmh. Alors, c'est vrai que Erasme était particulièrement doué là-dedans, mais il n'était pas le seul. Hein. Les grands humanistes qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi, alors qu'on lit peu en France, bon, Leonardo Bruni, Politien, Lorenzo Valla... Ces gens-là étaient les rois de l'ambiguïté, de l'allusion et du double sens. Bon, ces gens qui vous pondaient des épigrammes en latin ou en grec, qui sont... Mais, bon, alors évidemment, on comprend pourquoi ils aimaient Ozone, parce que Ozone, c'est comme ça tout du long. On peut traduire comme ça, mais peut-être qu'en fait, c'est tout à fait autre chose, et ça, c'est une jubilation. Parce que ça laisse la porte ouverte à la grande expression, donc au grand dialogue. Parce que toute la littérature de dialogue, d'ailleurs dont Erasme a été un des maîtres aussi, elle est du même esprit. On est dans des formes ouvertes.
Mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que chaque adage, finalement, pouvait s'assimiler à un petit banquet, une conversation entre érudits ou pas érudits d'ailleurs.
Alors, avant de donner la parole à la salle pour une discussion plus directe, je voudrais ajouter une dernière chose, parce qu'on ne peut pas le deviner forcément. Je pense que les adages ont eu une autre fonction. Alors, qui est assez inattendue. Nous aussi, on s'en est rendu compte, c'était un peu inattendu. Les adages, curieusement, ça a été l'instrument qui a permis de réintroduire le grec en Occident. Alors, vu de maintenant, nous, on dit « Ah, mais le grec, les belles lettres, tout ça, ça existe depuis toujours. » On pense, on n'imagine pas qu'il ait pu y avoir une période, comme je vous l'ai dit, où on ne pouvait pas trouver un texte d'Homère en Occident. Encore moins une traduction. Or, au temps d'Érasme, c'était encore ça. Il y avait déjà eu, depuis presque un siècle, quelques Italiens, quelques Grecs, qui avaient apporté des manuscrits, qui avaient commencé à les traduire, des très grands érudits. Bon. Mais ça restait quelques clubs d'érudits dans quelques villes, dans quelques cours italiennes. À Florence, à Ferrare, à Rome, à Naples, il y avait une dizaine de personnes, vraiment des érudits incroyables. Jean Lascaris, Policien, c'était des gens, quand on regarde leur niveau philologique, c'est absolument hallucinant. Bon. Mais c'était quelques clubs en Italie, point. Le public large. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par public large? Les gens qui savaient lire et écrire, qui étaient une infime minorité, bien sûr, dans la population, mais quand même qui étaient assez nombreux. Ça représentait quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes en Europe. Bon. Ces gens-là, ils lisaient le latin. C'était obligatoire, puisque pour aller à l'école, on faisait l'école en latin. Donc, ils lisaient le latin, plus ou moins bien, mais ils lisaient le latin. Or, ces gens-là n'avaient aucun accès à la littérature païenne, notamment grecque. Même si un imprimeur fou se mettait à imprimer en grec, à qui est-ce qu'il allait vendre ses livres? Personne ne pouvait les lire. Et les braves érudits de Florence ou de Ferrare, ils n'en avaient pas besoin, ils avaient les manuscrits. Bon. Et Erasme, d'ailleurs, il raconte qu'il a amené son projet à Alde et que Alde, immédiatement, a sauté dessus, a dit « on arrête tout et on fabrique ce livre ». Parce que Alde avait parfaitement compris que là, il trouvait le moyen de se faire un public. Et le moyen d'introduire le grec, alors c'est très curieux d'ailleurs ce moyen, on le voit dans le texte. Alors si vous prenez le petit fascicule, le petit bouclette qui est à l'entrée, il y a dedans des spécimens, des extraits. Et vous allez voir comment c'est fait. Et c'est fait d'une façon très curieuse. Et nous, traducteurs, quand on a ouvert ça, enfin toi je ne sais pas l'effet que ça t'a fait, mais moi ça m'a fait un effet bizarre. On a un texte, alors on dit Erasme, il écrit en latin. Bon, donc c'est du latin. Ok, bon, ça, c'est pas une surprise. Mais, au milieu de son latin, il y a des bouts, mais plein. Tous les paragraphes, il y a une ligne, deux lignes, quelques vers en grec. Mais tout le long du bouquin.
Oui, alors Qu'est-ce que c'est, ça ? Quand on saisit le texte, c'est beaucoup de travail.
Quand on le saisit, tu veux dire, sur l'ordinateur ?
Oui, sur l'ordinateur. Ah, oui. Là, on se rend compte que le grec est partout.
Alors, voilà, Erasme a inventé, parce que ça, c'était il a fait ça, c'est très curieux. Alors, il raconte que lui, au début, son idée, c'était de mettre le grec et lecteur, débrouille-toi. Alors là, je pense que Alde, l'imprimeur, lui a dit tout de suite, stop, là, cher ami, ça, on ne peut pas faire. Parce que nos lecteurs qui ne savent pas le grec, ils vont tomber sur des passages en grec, mais ils vont refermer le bouquin. C'est normal, nous, on ferait pareil. Alors Erasme dit, il a insisté, bon, j'ai accepté, j'ai traduit tout. Et alors, il fait cette présentation très curieuse, c'est ce qu'on appellerait, nous, juxtalinéaire. C'est-à-dire, c'est quasi juxtalinéaire. Il met une phrase, il dit, voilà, comme dit Platon, il vous sort la phrase en grec, Et immédiatement après, id est, ce qui veut dire telle chose en latin. Il le fait pour la prose, il le fait pour les vers. Alors pour les vers, ce qui n'était pas une mince histoire, parce que les vers grecs, c'est pas simple, et les vers latins non plus. Et alors les vers français, je ne vous dis pas, j'ai fait une vie d'enfer à mes traducteurs, parce qu'il y en avait un certain nombre qui ont dit « Ouais, ouais, on va le faire, on va traduire en alexandrin. » Parce que vous savez, les vers, on dit « Ouais, ouais, y a une école, enfin, une école. » 90% des traducteurs de latin et de grec en français ne traduisent pas les vers en vers. Ils traduisent les vers en prose. Eh bien, moi, je peux vous dire, et vous pouvez en faire l'expérience, c'est très facile, la prose et les vers, c'est pas pareil. Ça paraît idiot de dire ça. On dit le sens est le même. Oui, oui, bien sûr, le sens est le même. Sauf que, même à l'écriture, il y a une structure mesurée, même si elle est mal foutue. Parce qu'en français, elles sont en général mal foutues et pauvres. Alors qu'en latin et en grec, elles sont d'une richesse folle. En français, une fois qu'on a sorti un alexandrin, un octosyllabe et un décasyllabe, on ne sait plus faire grand-chose. Bon, tandis qu'en grec, vous changez une lettre de place, ou en latin, et ça vous donne un truc. Ils ont 200... Combien il y a de styles ? Il y en a des centaines de vers possibles, de types de vers possibles en latin ou en grec. En français, nous, quand on en a fait 4, on dit, oulala, maintenant, prof, je m'arrête. Bon, bref, Erasme a fait tout ça avec sa présentation juxtalinéaire. Ce qui veut dire, son calcul, c'était que le lecteur allait tomber sur ces passages en grec. Il allait voir ce que ça voulait dire, puisqu'il savait, il y avait la traduction après. Mais une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un certain nombre de pages, il allait se dire, quand même, j'aimerais bien voir l'original. Et que ça allait lui, il comptait que ça allait donner au lecteur une furieuse envie d'apprendre le grec. Donc d'avoir des enseignements de grec qui n'existaient pas à l'époque, il n'y en avait nulle part. Je vous dis la raison d'ailleurs, tant qu'on y est. On n'avait pas le droit d'enseigner le grec, les universités l'interdisaient parce que le grec, comme chacun sait, bon, c'est la langue d'Homer, mais c'est aussi la langue du Nouveau Testament. C'est donc une langue sacrée. Or, les facultés de théologie avaient le monopole de l'enseignement des langues sacrées. Il était interdit de faire un enseignement de l'hébreu ou du grec sans l'autorisation de la faculté de théologie locale. Donc on avait l'inquisition sur le dos, il valait mieux faire attention. Donc il n'y avait pas d'enseignement et on sait... Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Mis à part les quelques clubs de latinistes, d'hellénistes qu'il y avait en Italie, les premiers enseignements de grec réguliers qu'il y a eu en Occident ont été ouverts après la publication des adages. Et d'ailleurs, c'est Erasme qui l'a fait à Louvain en 1518. Il a ouvert le premier collège trilingue où on enseignait, c'était un de ses copains philanthropes, un humaniste néerlandais, qui a financé l'ouverture de ce collège dans lequel on enseignait le latin, le grec et l'hébreu. D'ailleurs, ça a valu à Erasme de se faire fiche dehors par l'Inquisition. Il a dû repartir en Allemagne. Enfin, ça a été très lourd d'affaires. Bien. Donc, les adages sont également le véhicule par lequel le grec est revenu en Occident, ce qui n'est tout de même pas rien. Parce que, comme vous le savez, le grec... La littérature grecque païenne est tout de même la base de la culture occidentale. Je ne dirais pas l'une des deux, mais la base. La latine en étant dérivée directement, évidemment. Bien, j'ai fini avec cette incise.